Allô?
Allô?
Oui?
Lambert Wilson?
Oui, c'est moi.
Remontez vite!
Et si tu trouvais un autre travail, tu pourrais rester?
Y a rien à faire.
Vas-y, dis ce que tu penses, toi, vas-y.
Mais non, je suis pas au courant de tout, je préfère pas m'engager, franchement.
Il veut pas s'engager de nier comme ça, lui.
Cinéma
dans tous ses états.
Une nouvelle émission mensuelle.
Scabreuse, dangereuse, tumultueuse et rêveuse.
Bonjour. Connaissez-vous René Vautier? Non? Eh bien, c'est un réalisateur militant breton. Moi-même, natif de Bretagne, je ne le connaissais pas. Il a fallu que je vienne à Florac pour le découvrir. À la nouvelle dimension, bien sûr. On y trouve 3 DVD contenant 7 de ses films. Dans chaque boîtier, un texte préparé par l'association nous indique que René Vautier est le cinéaste le plus censuré. On peut y lire ce que nous dit Georges Sadoul, critique et historien du cinéma, en 1951. Parmi les jeunes réalisateurs, le breton René Vautier tranche à la fois par son allure et ses convictions. Il pense visiblement que lorsqu'un mur se dresse sur la route de ce qu'il veut montrer, la seule solution consiste à foncer dans le mur, caméra au poing et tête en avant. Une tête de breton. Les murs n'ont qu'à bien se tenir. Alors, voyons de plus près qui est cette tête de breton. René Vautier est né en 1928, à Camaret, dans le Finistère, d'un père ouvrier et d'une mère institutrice. En 1943, il s'engage à l'âge de 15 ans dans la résistance en Bretagne. 1946, il entre à l'Institut des hautes études cinématographiques, IDEC. 1947, il participe à la réalisation du film « La grande lutte des mineurs », où il est confronté au pouvoir de la censure. Déjà. 1948, il réalise son premier film, « Afrique 50 », considéré comme le premier film anticolonialiste français. Ce film lui vaudra 13 inculpations et 1 an de prison, car la France n'apprécie pas que ce cinéaste donne la parole aux Africains colonisés, exploités, torturés, tué. René Vautier doit se cacher pour revenir en France. Son film sera diffusé sous le manteau. Il fait un détour par l'Irlande où il tente un documentaire sur l'IRA. 1950, il se rend à Brest avec l'aide de ses amis et il n'en manque pas. Ce sont des camarades de la CGT Bâtiment qui l'ont appelé pour faire un film sur leurs conditions de travail. Après-guerre, la ville de Brest est détruite et les ouvriers chargés de la reconstruire sont en grève. Les manifestations sont interdites et pour y avoir participé, Marie Lambert, députée communiste, Charles Cadieu, secrétaire de l'Union locale CGT et Raymond Buquet de la CGT Bâtiment sont en prison. Pour réclamer leur libération, une manifestation générale est organisée, sera d'ailleurs interdite et tourne mal. Les affrontements avec la police feront des blessés et surtout un mort. René Vautier réalise un film « Un homme est mort ». Le titre est en référence au poème de Paul Éluard, « Éluard », écrit en référence à Gabriel Péri, résistant tué par les Allemands. Pour en savoir plus, je vous invite à vous procurer la BD de Chris et Étienne Davodeau, « Un homme est mort », édité par Futuropolis en 2006. Vous pouvez la consulter à la médiathèque de Florac. Ce film vaut à notre réalisateur une nouvelle condamnation en 1952. Il part pour l'Algérie en 1957 pour filmer le conflit de point de vue des Algériens où il tourne « Algérie en flammes ». Il en récoltera 25 mois de prison en Tunisie. Les années 70 marquent un tournant alors qu'il réalise la fameuse fiction « Avoir 20 ans dans les Aurès » qui obtiendra le prix de la critique international au Festival de Cannes 1972. Si vous ne le connaissez pas, courez-vous vous le procurer.
Raciste en Bretagne, et dans la mesure où on a mis au point cet instrument qui permet de s'exprimer par l'image et le son, il y a des gens qui nous ont demandé de l'utiliser. Des gens qui ne pouvaient pas s'exprimer chez eux, et nous avons mis notre instrument d'expression dans une série qui s'appelle « Regard breton sur le monde ». Nous avons mis cet instrument d'expression à la disposition des Indiens d'Amérique du Sud, à la disposition des Noirs d'Afrique du Sud, et comme nous l'avons mis à la disposition des paysans du Larzac. On dit que ce sont des films d'intervention sociale. Et quand on essaie de donner une définition, on dit que ce sont des films dont le but est de refléter une réalité pour que cette réalité change.
Vont suivre les films La Folle de Toujane, un docu-fiction, Marée Noire et Colère Rouge, et Quand tu disais Valérie.
Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était de la blague. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était pas vrai. Et ce Trimec, c'est un vrai scandale. Trigano en est le héros. Le chômage est en escalade, puis les yeux toujours au boulot. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était de la blague. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était pas vrai. Tu viendras sur le pont de la Loire faire danser, tu seras au micro, on passera. Tu seras au comptoir, attention, il y a beaucoup d'eau. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était de la blague. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était pas vrai. Des navires, tu tiens le record, t'es pourtant un solide matelot. À la barre, tu vis tous nos ports, attention, c'est tombé à l'eau. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était de la blague. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était pas vrai. Tu voudrais, avec les caravanes, pour causerie, en faire un grand feu. La télé est très libérale, mais toi seul, c'est moins dangereux. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était de la blague. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était pas vrai. Le droit de grève, nous l'avons bien sûr, de licencier, c'est le droit à eux. Si la grève veut trop longtemps dure, milices et chiens agiront pour eux. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était de la blague. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était pas vrai. Quand tu disais que ça changerait, nous on savait, c'était de la blague quand tu disais que ça changerait. Nous on savait, c'était pas vrai.
Ce film, quand tu disais Valérie, retrace le combat des employés d'une entreprise qui fabrique les caravanes caravelaires contre leur patron Trigano, à Trignac, en Loire-Atlantique, près de Saint-Nazaire. C'est un remarquable documentaire sur les méfaits du capitalisme, avec le comportement mafieux de l'employeur et la superbe organisation des travailleurs pour tenter de sauver leur entreprise. La projection du film débute par ce texte. Veuillez nous excuser si les titres ministériels accolés à certains noms d'hommes politiques dans ce film sont maintenant dépassés. C'est tout simplement qu'un gouvernement se fait ou se défait plus rapidement qu'un film. Ça nous parle, hein, n'est-ce pas ?
Pour un nouveau management de l'entreprise, conseil au patronat, page 62. Les lois en faveur de la décentralisation peuvent être bien utilisées, une source de profit pour un patronat éclairé et intelligent. On peut percevoir des subventions pour création d'emplois. Cela peut atteindre 2 millions d'anciens francs par ouvrier. Donc, par exemple, pour une usine de 1000 ouvriers, 2 milliards d'anciens francs. En outre, la société est dégrevée d'impôts et de taxes pour une période de 5 ans. Alors, à l'évidence, au bout de 5 ans, il peut être rentable de provoquer un bilan financier négatif et de transporter ailleurs, dans une autre région, le matériel de l'usine, si possible dans une région où l'on peut une nouvelle fois avoir des subventions pour création d'emplois et, bien sûr, 5 ans de dégrèvements fiscaux. C'est une opération parfaitement légale, tout autant que l'avoir fiscal.
Un autre documentaire, tourné lui aussi en Loire-Atlantique en 1977, « Quand les femmes ont pris la colère ». Ce film est important car il donne la parole aux femmes à une époque qui ne leur était pas favorable. Elles sont travailleuses en usine ou femmes de travailleurs, doivent assumer leur journée de travail, de mère au foyer, des tâches ménagères et leur mari qui parfois se comporte mal avec elles en rentrant le soir de leur boulot. René Vautier leur donne la parole à une période où leurs maris sont en grève depuis 7 semaines. Elles se révoltent et se rendent dans le bureau du directeur de l'entreprise pour lui demander des comptes. Elles seront inculpées pour séquestration. René Vautier montre aussi leurs maris qui n'ont jamais tant défendu leur femme. À présent, La Folle de Toujane. C'est une fiction un peu documentaire et à sa manière, aussi des histoires de femmes. Cela commence en Bretagne. Séjourne en Tunisie et revient en Bretagne. L'histoire tourne autour de René, joué par Gilles Servat, fils de paysan qui devient instituteur. Ses parents auraient préféré qu'il reste à la ferme pour la sauver. Les agriculteurs bretons sont en grande difficulté pour poursuivre leurs activités et ne sont pas aidés. René est nommé dans le sud de la Tunisie, à Toujane, où il découvre là aussi le colonialisme ou le protectorat à la française. Il revient vers ses parents 5 années plus tard pour réaliser que les paysans ne se révoltent pas alors que les militaires occupent le terrain.
Eh bien, vous voyez, dans le temps en Bretagne, c'était les moines qui s'établissaient toujours aux endroits où il fallait, où ils faisaient le plus bon vivre, quoi. Et maintenant, ce sont les militaires. Seulement, les moines, ils construisaient, ils laissaient quelque chose derrière eux pour l'armée. C'est un petit peu comme s'ils étaient en plein désert. Ils n'ont pas l'air d'en tirer le moindre bénéfice et on ne peut vraiment pas dire qu'ils construisent des choses qui seront utiles à la Bretagne ensuite, quoi. Alors, on se demande vraiment pourquoi ils sont là. Et ils dressent des chiens, effectivement, parce que si on met chien méchant, c'est qu'ils ont été dressés à être méchants. C'est pas exactement dans le caractère du pays. On dit que la nature a horreur du vide. Ici, quand les Bretons s'en vont, c'est les militaires qui arrivent. Comme dit le paysan dans la folle de Toujane, tu vois, au lieu de produire des choux, ça va produire maintenant des obus. Et là où l'armée s'installe, ça veut dire des champs qui ne produiront plus. Ça veut dire des gens qui seront encore obligés de foutre le camp, qu'on chassera de leurs terres. Puis maintenant, comme ça ne suffit pas les terrains militaires et qu'en fait, comme on a chassé les gens déjà en supprimant le travail dans le coin, on va installer des centrales atomiques. Alors, centrales atomiques, terrains militaires, complexe pour touristes riches depuis la Bolle jusqu'à Quiberon. Qu'est-ce qui reste pour les Bretons ?
Cela nous rappelle une région proche de chez nous, n'est-ce pas ? Le Larzac. Avec sa décennie de combats, auquel René Vautier a aussi participé.
Il y a des pétroliers super qui foutent le deuil sur l'onde avec 10 hommes d'équipage. S'en va au bout du monde. Avant il en fallait 30, c'était pas rentable. En voilà 20 au chômage, les prix seront plus supportables. Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces matelots, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, à l'air. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Assez travailler pour soi, la petite exploitation maintient l'Europe en retard. Hors de la compétition, il y a trop d'agriculteurs, c'est pas raisonnable. Quelques millions au chômage et le revers sera viable. Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces paysans, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-la-l'air. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. Et toi, petit commerçant, tu mourras de la TVA. Mais si on aide ces gens-là, la bombe, comment on la fera? Le petit commerce doit mourir, il n'est pas rentable. Va-t'en au supermarché, les prix seront plus abordables. Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces commerçants, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air. On les mettra à l'usine, on manque toujours de prolétaires. À Nantes, à Rennes ou à Brest, du travail il y en a guère. Ils voudraient rester chez eux, alors comment faire? Déplacer toutes les usines, c'est complètement con. Eux qui viennent dans la capitale, pour le patron c'est plus valable. Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces émigrants, qu'est-ce qu'on va en faire? S'ils viennent dans la capitale, tra-la-la-la-l'air. Même en faisant plein de fonctionnaires, il y aura toujours trop de prolétaires. S'il y a trop de chômeurs, il y aura du désordre. Il faudra des policiers pour maintenir l'ordre. Hitler le disait déjà, un chômeur c'est pas rentable. Un soldat ça coûte moins cher et c'est bien plus raisonnable. Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Mais de tous ces policiers, qu'est-ce qu'on va en faire? Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air. Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères. Ils s'en iront à la ville, tra-la-la-la-l'air. Taper sur les ouvriers, taper sur leurs frères.
Regardez bien aussi ce film, Marée noire et colère rouge, car il est encore d'actualité. Ce documentaire retrace le naufrage du pétrolier Amoco Cadiz en 1978 sur les côtes nord-Bretagne et la pollution qui a suivi. À l'époque, les grands moyens d'information ont surtout été au service du gouvernement. À entendre ce gouvernement, les mesures étaient prises, il ne fallait pas s'inquiéter, il ne fallait pas dramatiser. Mais quand une catastrophe comme celle-là se produit, il faut bien constater que c'est une catastrophe. Nous avons affaire à un milieu pétrolier, dénué de toute scrupule, qui a des ramifications dans des multinationales.
16 mars 78, à la pointe Saint-Mathieu, au nord-ouest de la rade de Grasse. La mer est agitée. La météo annonce un vent qui grossira jusqu'à la force 9. Le remorqueur de haute mer Pacifique fait mouvement dans le port de commerce de Brest. C'est un remorqueur de la société allemande Buxir de Hambourg. Brest était, avant-guerre, un haut lieu de remorquage de haute mer en France. Mais il n'y a plus à Brest, par mesure d'économie, de remorqueurs de haute mer civils français. Moyennant finance, la Buxir de Hambourg a pratiquement acquis le monopole du remorquage dans les parages d'Ouessant. Le Pacifique vient d'apprendre, en interceptant un message radio, que le pétrolier libérien Amoco Cadiz est en panne d'appareils à Couvernet, qu'il demande des instructions à sa compagnie d'armement à Chicago. Peut-être une bonne affaire. Dans le vent qui tourne à la tempête, le Pacifique se porte vers l'Amoco Cadiz qui se trouve à 13 000 des côtes au nord-ouest d'Ouessant. Dans le milieu maritime, on appelle ces remorqueurs les charognards de la mer. Leur intervention se monnaie selon la loi de l'offre et de la demande. Transposé dans le domaine des hommes, ça donne à peu près ceci. Un homme se noie, un sauveteur potentiel discute avec lui pour savoir la somme que l'homme qui se noie lui donnera pour le sortir de l'eau. Plus l'homme s'enfonce, plus le montant de la note s'élève, et le sauveteur ne tendra la main que lorsque le presque noyé aura accepté son prix. Dans le monde des hommes, cela peut sembler immoral. Mais nous sommes dans le monde des affaires, et le libéralisme est basé sur la loi de l'offre et de la demande. L'affaire peut être juteuse pour la Buxir et le Pacifique. L'Amoco est chargé de 230 000 tonnes de pétrole. S'il est réellement en difficulté, et si le Pacifique le tire d'affaire, cela fera plusieurs milliards dans les caisses de la Buxir de Hambourg. L'Amoco Cadiz était réellement en difficulté, mais le Pacifique n'a pu le tirer d'affaire. Le soir du 16 mars 1978, vers 22h, la mer et les vents jetteront l'Amoco Cadiz sur les rochers de Port-Sal, provoquant la plus grande pollution marine connue à ce jour. Au soir du 16 mars, on peut établir la chronologie de la catastrophe. Le matin, à 9h45, la barre de l'Amoco Cadiz ne répond plus. 11h, la panne de l'appareil à Couvernet est irréparable. Le commandant Bardari prend contact par radiotéléphone avec la direction de l'Amoco International Oil Company à Chicago et lui demande des instructions. Le remorqueur Pacifique intercepte le message en rencontre à la direction de la Buxir à Hambourg. 12h20, contact est pris entre le remorqueur et le pétrolier. Les discussions s'engagent entre Chicago et Hambourg pour fixer le prix d'un éventuel sauvetage. Le vent pousse l'Amoco vers la côte. 14h31, le Pacifique passe une amarre à l'Amoco. Les discussions entre Hambourg et Chicago continuent. Le commandant Bardari signale à Radio Conquet que tout va bien à bord. 17h19, l'amarre casse. C'est alors seulement que Chicago accepte les propositions de Hambourg et la Buxir demande à un autre de ses remorqueurs de rejoindre au plus vite le Pacifique. L'affaire semble bonne. Une nouvelle fois, le commandant Bardari répond à Radio Conquet que tout va bien à bord. Une amarre est passée du Pacifique au pétrolier à 21h50. Le vent est trop fort. Le commandant Bardari jette une ancre, une seule, l'autre est bloquée depuis le golfe Persique. Virant sur la chaîne de l'ancre, à 22h04, l'Amoco Cadiz est drossé sur Mengulven, un rocher devant Port-Sal. L'Amoco Cadiz commence à saigner son pétrole. après le Torrey Canyon en 1967, l'Olympique Braveri 1976, le Belém 1976, la Moco Cadiz va lâcher ses 230 000 tonnes de pétrole sur la partie écologiquement la plus riche des côtes bretonnes. Mais dans deux jours, la France va voter. Jusqu'au 19 mars, les masses médias au service du pouvoir vont s'efforcer de minimiser l'événement. Nous accusons les masses médias d'avoir trahi leur mission, de n'avoir pas informé, mais d'avoir déformé l'information, de l'avoir manipulée.
René Vautier a su décortiquer l'ampleur des dégâts avec beaucoup de pédagogie. Et ce scientifique, qu'il filme dans un paysage souillé par le pétrole, le confirme.
Nous avons constaté ici, on était d'abord chez des gens présentant des maladies connues comme l'asthme, la bronchite chronique, la dilatation des bronches, les anciens tuberculeux, qui ont vu leur maladie faire des poussées aiguës et s'aggraver immédiatement. Il y a également eu des intoxications générales, céphalées, maux de tête, fatigue, douleurs articulaires. Mais les gens présentant des maladies connues ont quand même été pris comme volontaires, puisqu'on a pris absolument tout le monde, dans un souci de faire vite avant que les touristes arrivent le 1er juillet, donc, alors qu'ils présentaient des contre-indications formelles au contact avec ce pétrole. Nous avons par ailleurs connu ensuite la composition de ce pétrole. On a su par exemple qu'il y avait 3% de benzène à l'intérieur, soit 7500 tonnes. Ce benzène se dégageant progressivement. Le benzène, il est connu depuis 1927 comme donnant des maladies de sang. On sait aussi que le travail du benzène est interdit aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 18 ans. Or, on s'aperçoit que le sous-préfet Lefebvre a fait appel dans la presse aux enfants des écoles pour venir travailler le mazout ici dans le cadre des 10%, ce qui constitue un véritable scandale et une infraction à la loi. Un problème se pose, je vous ai dit que ce benzène est connu comme pouvant donner des maladies de sang dans un délai de 15 jours à 5 ans après le contact, et ceci sans rapport direct avec la quantité inhalée. Eh bien, je pose la question, qu'est-ce qu'une maladie du travail pour un bénévole étant venu durant les 2 mois passés travailler sur ces plages et qui, dans 1 mois, 2 mois, 1 an, à Liège, à Quimper ou à Mulhouse, présentera des troubles sanguins? La question se pose, cette entreprise de 5000 personnes plan Polmar n'a pas de médecine de travail et ne donne aucune garantie à ses travailleurs. Il existe également un problème important, c'est celui des naphtalènes. Les naphtalènes sont des composés toxiques, cancérigènes, qui sont contenus dans ce pétrole. Les analyses de la faculté de médecine l'ont prouvé. Eh bien, ces naphtalènes, dont nous ignorons tout, en particulier la façon dont on les respire, la façon dont ils passent dans le sang, la façon dont ils sont transportés dans le sang, s'ils se fixent dans le corps, et surtout pour combien de temps ils se fixent. Pour déterminer tout ça, on a retiré du sang aux gens pour leur faire des analyses. Eh bien, ces analyses, faute de crédit, sont actuellement, 3 mois après le naufrage de la Moco Cadiz, dans un congélateur du laboratoire de biochimie de la faculté de médecine, attendant soit la première panne d'électricité, soit le premier sou pour les effectuer. Et ceci constitue, à mon avis, un abus de confiance vis-à-vis et des populations qui ont été aux alentours de ce naufrage, c'est-à-dire ici, Landéda, Port-Sal, etc., et des gens qui ont été au contact parce qu'ils ont travaillé, soit population bénévole, soit soldats.
René Vautier nous dit que le cinéma militant consiste à donner l'image et le son à la disposition des gens pour qui les pouvoirs constitués les refusent. Il considère être un cinéaste d'intervention sociale. On disait de lui qu'il était cinéaste, franc-tireur ou l'homme à la caméra citoyenne.
On ne peut pas contrebalancer aujourd'hui le discours du pouvoir si on n'a pas des images qui permettent d'illustrer la contre-information. Quand tu disais, Valérie, les ouvriers de Saint-Nazaire nous ont dit on fait la collecte et il y a 15 000 ouvriers qui ont payé leur place d'avance, qui ont payé 10 francs. Et on a eu 15 millions d'anciens francs pour faire le film. Ensuite, quand on a voulu leur rembourser, parce que le film a très bien marché aussi, quand on a voulu leur rembourser, ils ont dit, il y a un petit problème à côté, il y a des femmes qui sont poursuivies en justice pour avoir séquestré le patron de leur mari. S'il vous reste des rentrées du film, allez-y, faites quelque chose avec, avec notre argent, quoi. Allez-y, vous le mettez là-dedans. Et on a commencé quand les femmes ont pris la colère.
On ne réagit pas suffisamment pour reprendre en main le droit de s'exprimer par l'intermédiaire des mass médias. Et si on ne le fait pas, effectivement, on devient ce qu'on souhaite que l'on soit, c'est-à-dire un peuple de moutons.
Magazine, on a wedding blood, you bought the tennis.
Et pour clôturer cette émission, sachant que les thèmes évoqués n'ont pas de fin, je vous propose Cream or White.
Quand tous les affamés et tous les opprimés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut chanter tous les poèmes des sages et on peut parler de l'humilité, mais il faut s'unir pour abolir injustice et pauvreté. Les hommes sont tous pareils, ils ont tous le même soleil. Il faut, mes frères, préparer le jour de clarté. Quand tous les affamés entendront tous l'appel, le cri de liberté, toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On peut discuter sur les droits de l'homme et on peut parler de fraternité, mais que les hommes soient jaunes ou blancs ou noirs, ils ont la même destinée. Laissez vos préjugés, rejetez vos vieilles idées, apprenez seulement l'amitié pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, les cris de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité. On ne veut plus parler de toutes vos guerres et on ne veut plus parler de vos chants d'honneur et on ne veut plus rester les bras croisés comme de pauvres spectateurs. Dans ce monde divisé, il faut des révoltés qui n'auront pas peur de crier pour que les affamés et tous les opprimés entendent tous l'appel, le cri de liberté. Toutes les chaînes brisées tomberont pour l'éternité.
René Vautier est décédé en 2015. Il en a produit d'autres films, mais en parler demanderait plusieurs émissions. Je vous invite à faire vos recherches, car la vie de René Vautier en vaut la peine. Au revoir.
Je regarde dans le lointain, jusqu'aux confins du monde. Et avant même la tombée du jour, déjà c'est la fin.